Audiolib présente D'une beauté sauvage de Christian Signol, lu par Michelangelo Marchese. À Richard Ducousset, pour 30 années d'amitié fraternelle. L'homme est un loup pour l'homme. Thomas Hobbes. Chapitre 1. Il y eut un long frisson sur le troupeau assoupi dans le pâle soleil du début avril. Le chien se dressa, le poil hérissé, gémit, se mit à trembler. Deux clochettes tintèrent. Assise sur son tabouret portable où elle lisait un roman de Douglas Kennedy, Jeanne sursauta et leva les yeux. Des langues de neige gelées tapissaient encore les versants exposés au nord. Quelques médailles blanches, que ressuscitait le gel des matins, demeuraient accrochées aux branches hautes, aiguisées par les rayons du soleil. Le regard de Jeanne courut le long de la lisière de la forêt que les pins et les chênes disputaient aux douglas et aux épicéas. Elle l'aperçut, là-bas, immobile, tendu sur ses pattes avant, le pelage gris mais plus clair sous le ventre, noir sous l'échine, les oreilles rondes, la queue courte, figé dans une expectative aussi féroce que son regard fixe qui, sans doute, évaluait les risques d'une éventuelle attaque. Jeanne baissa un instant les yeux pour caresser son chien qui grondait en tremblant toujours, et quand elle dirigea de nouveau son regard vers la lisière du bois, il avait disparu. « J'ai rêvé », se dit-elle pour se rassurer. Pourtant, elle s'était mise à trembler, elle aussi, et elle tentait de se persuader que c'était à cause du froid de cet hiver qui n'en finissait pas, balayant de rafales glaciales le vallon blotti entre les deux collines censées l'abriter. Elle avait toujours su qu'elle devrait y faire face un jour ou l'autre. Un an auparavant avait été créé sur le plateau le comité loup, qui regroupait les services de l'État, l'Office français de la biodiversité, les associations du plateau et les syndicats agricoles. Mais, en ce printemps 2023, les attaques sur les troupeaux demeuraient rares. Depuis la Convention de Berne signée en 1979 et transcrite en droit français en 1989, le loup était une espèce strictement protégée. Pourtant, tout le monde savait qu'il avait essaimé depuis l'Italie, gagné le sud-est de la France et à présent le Massif central. Il était donc fatal que Jeanne fût un jour confrontée à sa menace. Elle s'y était préparée, en avait souvent parlé avec son compagnon, Damien, débardeur forestier, mais elle n'avait pas pu maîtriser ce tremblement qui s'était emparé d'elle à l'instant où le loup avait braqué son regard de feu ardent sur elle et sur le troupeau. Une sensation de terreur venue du fond des âges, impossible à contrôler, bien qu'elle sût ne rien risquer elle-même, le loup ne s'attaquant pas à l'homme, sauf dans des circonstances très rares, et plutôt aux animaux malades ou affaiblis. Damien n'avait pas été le seul à l'avoir alerté sur l'imminence d'une possible attaque. Lucas, l'agent qui travaillait pour l'Office français de la biodiversité et qu'ils avaient rencontré à plusieurs reprises le mois précédent, leur avait indiqué que les pièges photos posés sur les arbres révélaient la présence d'un jeune mâle arrivé depuis peu dans le secteur. Deux attaques avaient eu lieu à 15 km du hameau de Pradou où Jeanne vivait avec Damien, mais un loup pouvait parcourir plus de 30 km en une journée. Elle savait également que la saison des agnelages était propice aux attaques, alors qu'en automne, les loups s'en prenaient plutôt aux petits des chevreuils dont les femelles mettaient bas en été. Or, c'était le premier jour de sortie du troupeau, et Jeanne n'avait pas prévu de le rentrer le soir même à la bergerie, car il ne lui restait presque plus de foin emmagasiné pour l'hiver. « Il est temps de le laisser dehors », avait décidé Damien. « On ne va quand même pas acheter du foin !» Elle avait acquiescé, car il était fils de paysan, et il s'y connaissait davantage qu'elle dans le domaine de l'élevage. S'il avait préféré devenir débardeur forestier, c'était à cause de sa passion pour la mécanique et notamment les timberjacks, ces monstrueuses machines qui coupaient, ébranchaient et morcelaient les arbres en moins de 3 minutes. Il s'était connu à Villard-de-Lans, où Damien effectuait un stage dans les forêts du Vercors, et elle n'avait pas hésité à tout quitter pour le suivre sur ce plateau du Limousin où elle avait emménagé dans la maison de famille de Damien dont les parents étaient décédés quelques années auparavant. Elle s'y plaisait, surtout au moment des agnelages de printemps, même s'il fallait se lever la nuit pour aider quelques brebis à mettre bas. L'hiver la contraignait à demeurer près de l'immense cheminée à linteaux de chêne où elle pouvait paresser et assouvir sa passion de la lecture. Cette passion l'avait conduite à une maîtrise de lettres à Grenoble, au pied du Vercors, dont elle n'avait su que faire, n'ayant aucun penchant pour l'enseignement dont le risque, au reste, était de la propulser vers un premier poste dans la banlieue parisienne, ses tours grises, ses parkings souterrains.